sur Fun Radio.
Ah, ça y est, c'est l'heure. On va faire tomber là les deux places, le duo ticket pour l'Adult Night au Lego Discovery Center de Bruxelles. C'est un endroit où je n'ai encore jamais été, mais j'aimerais bien y aller. J'ai vu une exposition il n'y a pas longtemps, j'étais à la Butte du Lion, oui. Oui, j'ai été à la Butte du Lion, apparemment il y a une exposition Lego aussi. Tout le truc 1815 en Lego, c'était pas mal.
Génial.
Ils ont
reconstruit tout le...
Tout le bazar, t'as plein de petits endroits et puis t'as toute l'histoire de Napoléon et tout en Lego. Quand on te le dit comme ça, tu fais bon, d'accord. Ouais. Et puis en fait, quand t'es devant, t'es là, mais attends, mais ça a pris combien d'heures ce truc?
Et quoi, genre même les boulets de canon et tout en Lego?
Toutes les petites choses, je peux te montrer des photos, c'est trop mignon. T'as des petits Lego qui sont tombés, t'as les pyramides, les campagnes d'Égypte, etc. Enfin,
mais c'est
des trucs immenses. Et t'as aussi les tableaux en Lego, quoi. Tu vois, avec les petits points comme toi, t'avais dit les fleurs de Van Gogh, là.
Ouais.
Et c'est pas mal, ça. C'est très, très joli. C'est un beau cadeau à faire, hein.
Ouais, et moi, j'aime beaucoup la nuit étoilée de Van Gogh.
Ouais, c'est beau.
Qui est aussi en Lego.
Tu l'as?
Je l'ai pas.
Ah,
elle est sur ma wishlist.
Ah, mais attends, c'est des trucs que tu peux acheter vraiment dans les magasins.
Ouais, ouais, bien sûr.
Ah, d'accord.
Ah, tu le fais toi-même. Donc
oui.
Tu reçois toutes les pièces détachées, mais
c'est génial parce que c'est vraiment chaque
pixel. Tu construis ton truc.
C'est pixel en Lego, quoi. Tu connais un peu ça, Audrey? T'as déjà vu?
De quoi, les Lego?
Non. Tu connais les Lego? Non, les peintures, enfin les tableaux de personnes, genre des portraits, mais en petit Lego comme ça, tu vois.
Non, ça pas, mais moi j'aime bien ceux qui font les bouquets de fleurs et tout en Lego.
Ah, les bouquets de fleurs, ouais, mais ça j'en ai un.
C'est vraiment dans un appartement comme ça, c'est minimaliste, hop, le petit truc
j'adore.
Au milieu, c'est pas mal, hein.
T'as vu?
Le bouquet de fleurs en Lego, c'est vraiment un très chouette cadeau à faire, messieurs.
C'est pas mal, hein?
Oh. Ben, ça reste, hein. T'as tes fleurs, elles fanent pas.
C'est vrai. Elles sont pas éphémères pour le coup.
Ça te séduira, ça, un bouquet de fleurs en Lego?
Bah ouais, moi j'en ai reçu un, j'adore.
Oh. Ah waouh!
C'est génial.
C'est vrai que c'est sympa.
T'as tout le temps t'as l'impression d'avoir toujours des fleurs chez toi. Bon, après, rien de vous, un bon bouquet de fleurs, mais.
Mais c'est toi la fleur chez toi.
Oh.
Il y a toujours un bouquet de fleurs chez toi. Alors, sachez que voilà, vous allez pouvoir assister à cette soirée super cool du 22 mars prochain au Lego Discovery Center de Bruxelles, qui est d'habitude envahi par les familles, etc. Là, c'est une soirée entre adultes. Mm-hmm. Donc voilà, cool.
Adult only,
Lego Center, Lego Discovery Center. Alors, je propose qu'on lance le tirage au sort. Si tu es d'accord, Jeanne.
Bah, si tu proposes.
Je propose.
Allons-en.
Si ça sonne chez toi, de l'autre côté, que tu as envoyé le mot Lego par SMS au 6322, ça veut dire que c'est It's your moment. It's the moment.
Allô?
Oui, allô. Bonsoir. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Antoine.
Salut Antoine. Antoine, tu repars avec ton duo ticket pour la Lego Discovery Center.
Yeah, top ça.
Et oui.
Génial.
C'est pas mal, hein. T'es un fan de Lego?
C'est pas mal du tout. Assez. Et j'ai un ami qui est hyper fan et qui va être super heureux.
Oh, ah bah là c'est génial.
Donc voilà.
Il s'appelle comment ton ami?
Il s'appelle Jérémy.
Jérémy, Antoine.
Je ne sais pas s'il écoute, mais je lui ai dit d'écouter et que je serais peut-être tiré au sort, donc voilà.
Et voilà, c'est toi, c'est ta chance. Le 22 mars prochain, bah, tu y seras, c'est à Bruxelles, dans le Docks. Tu pourras peut-être croiser Dino, James Dino, je ne sais pas si tu l'aimes bien, si tu le connais. Jeanne aussi,
ah,
peut-être
terrible.
Sera là.
Terrible. Terrible.
Mais voilà, ça serait une chouette soirée. On est très content de t'offrir
et
ces deux places.
Et on va vous ramener un bouquet, c'est ça.
Oh,
c'est ce que j'ai cru entendre, non?
Écoute, Antoine.
Après le voyage Napoléon et l'Égypte, il faut ramener un bouquet, c'est ça.
Écoute, on ne dit jamais nous un bouquet de fleurs.
Effectivement. Et en plus, en Lego, alors là, excuse-nous, ça pourrait faire une belle déco ici dans le studio.
Mais surtout quand
un grand
bientôt.
Format, alors faut une taille réelle, quoi. Faut des vraies roses, quoi.
Tu viens avec un format qui te correspond, j'ai envie de dire. Tu fais dans la limite de tes moyens. Non, on rigole, mais.
On verra.
Tu veux nous offrir des fleurs en Lego? Tu veux venir au studio à un moment donné?
Ah ben ouais, ce serait sympa, ouais, ce serait sympa, franchement.
Écoute, t'es le bienvenu, mais même sans bouquet de fleurs, hein, t'es le bienvenu.
Mais bien sûr.
Ah, non. Faut pas croire que...
On n'est pas des bichons.
Non, mais non, on va essayer de monter ça avec Jérémy, comme ça, peut-être après, on fera une deuxième émission sur Master Lego.
Mais ah, pourquoi pas, tiens.
Mais vous construisez souvent des Lego, toi et Jérémy?
Ben là, on vient de se relancer sur mon vieux stock que j'ai ressorti parce que mon fils de 12 ans en a complètement rien à cirer, malheureusement.
Uh-huh.
Mais donc, moi, je me suis relancé. Moi, je suis ébéniste à la base, donc je suis quand même assez passionné et j'aime les beaux objets. Donc,
ouais.
Et je trouve que Lego devient quand même un bel objet.
Bah, là,
il évolue pas mal quand même.
Mais si tu connais bien, viens de parler de ta passion. Quand tu veux.
Avec plaisir.
Et pendant les pubs et les musiques, on fera les le montage du bouquet.
Et les demandes.
Avec plaisir.
Écoute, Antoine, top. Donc déjà, tu sais où tu seras le 22 mars. Tu repars avec ton duo ticket. Jérémy sera certainement là avec toi. Et puis à un moment donné, on organisera une soirée où on peut parler vraiment de ta passion et aussi de l'ébénisterie, parce que c'est chouette, quoi, les métiers, l'artisanat. Moi, j'adore. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je serai.
Ah, il faut qu'on essaye de les conserver, c'est sûr.
Bien sûr.
C'est sûr qu'il faut qu'on essaye de les conserver.
On va prendre tes coordonnées de façon hors antenne, comme ça, tu peux recevoir tes deux places pour la soirée Lego. Et puis, on se verra bientôt.
Magnifique, merci beaucoup. Très gentil.
Merci d'être à l'écoute de l'émission, on t'embrasse.
Merci, belle soirée.
Ciao, belle soirée. On va continuer la soirée sympa et de cadeaux, puisque aujourd'hui, c'est quand même, je le rappelle, les 40 ans de Stromae. Un titre par heure depuis le début de cette journée. Là, on va s'écouter Carmen. On se retrouve juste après pour la suite de la soirée avec notre invité Maïté Meus, qui n'a pas gagné un prix Nobel de la citoyenneté. Le prix de la citoyenneté.
Jeanne. C'est déjà pas mal, hein.
C'est déjà vraiment pas mal.
Merci,
hein.
Merci, j'apprécie.
Juste après Stromae, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai cru que t'avais reçu un Nobel. On écoute Stromae, bon anniversaire, et rendez-vous aussi sur la page Instagram de Fun Radio Belgique pour repartir avec des beaux objets collector de la tournée Multitude.
C'est Lara Bell Rose and Friends sur Fun Radio.
Oui, en même temps que le jingle. Tu voulais faire le jingle, Jeanne? Vas-y, fais-le.
Non, mais ça va, hein, on va laisser ça à Boris.
Oui, c'est vrai que c'est
chacun
Boris.
Son taf.
C'est la même personne qui fait le jingle et qui vous donne le numéro du WhatsApp.
0478 425 425.
That's là, dit, right. Je préfère la version du jingle d'Irène.
Tu l'as?
Lara Bell Rose and Friends.
C'est vrai qu'elle est chouette.
Lara Bell Rose and Friends.
Ben voilà, c'est le nom de cette émission. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est ensemble jusqu'à 23h. Bon, l'émission passe à une vitesse folle.
Envoyez-nous, vous aussi, en fait, les jingles de Lara Bell Rose and Friends en message vocal.
Absolument.
Sur WhatsApp.
Vous pouvez nous envoyer des notes vocales.
Ouais, on va les extraire et puis vous mettre dans le cartouchier pour mettre vos notes
très
vocales.
Vous pouvez faire les jingles de cette émission. Ça se passe sur WhatsApp 0478 425 425. En notes vocales, on récupérera. On fera un petit fioril. Bonsoir les filles. Ça va les filles?
Ça va, ça va.
Toujours bien. Avant d'avoir Logan en ligne, qui a un témoignage très important à nous donner, je voudrais dire que notre invité du jour, c'est Maïté Meus. Maïté Meus qui a créé le hashtag Balance ton bar, quand même, qui a dépassé les frontières, qui a révélé des choses dont on savait tous, qui étaient un peu undercover, mais qui fait qu'aujourd'hui, on peut quand même en parler de manière plus ouverte, plus ça s'est démocratisé quelque part, la parole en tout cas s'est déliée grâce à toi,
ben
quand
merci,
même faut le dire.
C'est gentil.
Et il y a eu plein de balance-tons, hein, derrière.
Ouais, il y a eu plein de balance-tons. Mais en fait, balance-tons, ça vient du mouvement MeToo, ouais, qui est parti des États-Unis donc en 2017.
Avec balance ton port ou rien à voir?
Balance ton port, c'est la déclinaison française de MeToo en fait. Okay. MeToo, ça a démarré en 2017 à l'affaire, enfin à la suite
Weinstein.
Des affaires Weinstein, ouais, qui ont été révélées aux États-Unis. Et puis, il y a une traduction française qui était « Balance ton porc ».
Ils ont très bien traduit, ils ne sont pas bilingues.
Hein. Ouais. Ah, moi aussi, balance ton porc. Non, mais ça faisait sens. Et puis, il y a eu plein de déclinaisons, en fait. Et parfois, c'est vrai qu'on peut se perdre dans ces déclinaisons. Balance ton, tu vois. Balance ton bar pour le monde de la nuit. Balance ton porc de façon plus générale. Donc, ouais. Mais c'était des mouvements qui étaient nécessaires, qui ont contribué à libérer la parole. Et puis, on dit souvent que, en fait, les femmes, elles ont toujours essayé de parler de ce qu'elle vivait, des violences qu'elle vivait et tout. C'est juste qu'en 2017, bah, on a forcé l'écoute d'une certaine manière, tu vois, grâce à plusieurs circonstances qui ont fait que c'était le moment opportun. Mais, voilà.
Et puis le groupe aussi fait. C'est-à-dire que quand tu parles de manière isolée, tu vois, à ton entourage, bah, ça reste là. Là, grâce aux réseaux sociaux, grâce au hashtag, ça fait un mouvement. Et du coup, bah, ça a une force, ça devient même une force politique.
Non, c'est sûr.
Et puis quand les gens témoignent, ben, ça t'incite toi aussi à te dire, bon, allez, s'il y a certaines filles qui ont été courageuses, moi aussi, je vais prendre mon courage à deux mains et partager aussi mon témoignage pour...
Tout à fait.
Ouais, il y a un effet de sororité sur les réseaux sociaux qui est indéniable. Quand il y a une qui partage un témoignage, il y en a d'autres qui ont envie de suivre et tout. Mais il y a aussi, les réseaux sociaux, c'est fort quand tu veux organiser une manifestation, quoi. Alors, je me souviens, moi, en septembre, j'avais envie d'organiser une manifestation pour Gisèle Pélicot. Je ne sais pas si vous avez suivi la
Pélicot. Oui, bien sûr. Ah, ouais. Gisèle Pélicot, oui, on a suivi.
Vous avez suivi,
ouais. On suit encore, parce que
sa fille est passée. Ouais. Caroline Darien, oui. Mm-hmm. Et du coup, j'ai voulu organiser une manif de soutien ici à Bruxelles, parce qu'il n'y en avait pas. Il y en avait juste en France. Et en fait, j'avais un jour pour le faire, pour être sur le même timing que les manifs françaises.
Ouais.
Et en un jour, en fait, grâce à la force des réseaux sociaux, bah, tu avais plus de 300, 400 personnes dans la rue.
OK.
Donc... c'est pas énorme pour une manif, mais pour un jour.
C'est, ouais, mais c'est top.
Et de toute façon, c'est non. Puis les manifs de Balance en Bar, ça fait des milliers de personnes. Donc c'est un truc qui est hyper fort. C'est un espèce de contre-pouvoir qu'on a.
Absolument. Non, c'est bien que c'est une super initiative qui a été en récompensée en plus puisque tu as reçu un prix Nobel.
J'aurais aimé.
Un prix Nobel de la paix. Alors, il faut savoir que en fait, vous connaissez Jeanne, enfin pas personnellement de manière très voilà, mais vous connaissez Maïté et Jeanne. Et donc Jeanne me parle de toi, Maïté, en me disant, écoute Maïté, elle a reçu le prix Nobel de la citoyenneté. J'y vais, vas-y, hein, vite.
J'aimerais trop.
Et donc jusqu'ici, jusqu'à la présentation, personne m'a contredite. En plus là tout à l'heure, quand je l'ai dit dans l'émission, elle a reçu le prix Nobel, tout le monde a fait oui, bien sûr. Alors explique pourquoi, Jeanne. Explique pourquoi.
Il faut sacher que je suis un peu dyslexique.
C'est hyper drôle.
En effet, je suis Maïté sur les réseaux depuis déjà quelques temps. Et à mon avis, un soir, en rentrant de la radio, j'ai dû voir ses stories qui mentionnaient le fait qu'elle avait remporté le prix de la citoyenneté.
Voilà.
Accompagnée de Sepp Nobel.
Ah,
voilà, en fait, c'est Sepp, comme ça qu'on dit. Hein.
Oui, Sepp Nobel, c'est un chef Michelin qui a remporté le prix de la citoyenneté en même temps que moi. Ouais, qui fait des trucs dingues. En fait, il intègre beaucoup de personnes, enfin, qui a beaucoup de personnes réfugiées dans ses cuisines.
D'accord.
Il leur apprend son métier. Et c'est quelqu'un qui est hyper reconnu en Flandre, qui a lancé une série télé, qui a gagné un Emmy Award il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'est un personnage dingue, mais c'est juste qu'en Belgique, on ne partage pas, quoi. Enfin,
oui,
la France ne connaît pas
les
francophones et vice versa.
Frontière. Et ce monsieur s'appelle Nobel. Son nom de famille, c'est Nobel.
Donc moi, j'ai juste lu Maïté Meus, Nobel, récompensé du prix de la société. Ça a fait mix match dans ma tête. J'ai fait une prix Nobel.
Écoute, peut-être un jour un prix Nobel.
Oh, wow.
Tu vas nous parler de toute façon des choses que tu entreprends parce que tu t'es organisée, évidemment, de manière associative. J'ai été voir, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu travailles. Entre temps, on a aussi reçu pas mal de messages. Je vous rappelle le numéro 0478 425 425 sur WhatsApp. Jen, qui est passée là tout à l'heure à l'antenne, nous dit qu'on parlait de self-défense, tu sais, pour nous les femmes et les autres, enfin tout le monde qui a envie d'avoir peut-être des skills pour se défendre dans la rue. L'ASBL dont tu parlais, Jen, c'est l'ASBL Garance.
Ouais.
Tu la connais ?
Oui, je la connais.
Ah voilà.
Ils organisent des cours d'autodéfense féministe. C'est assez connu.
Ok.
Et ça permet de mettre pas mal de personnes en confiance, en fait. Hein. On ne dit pas que vous allez faire un gros move de jiu-jitsu et que votre agresseur va tomber par terre, mais ça peut permettre vraiment d'avoir des skills pour pouvoir fuir, justement.
Oui, ou alors être un peu plus en confiance.
Ouais,
dire,
plus
ok,
en confiance,
au moins je connais ça, je sais comment faire quoi. Je tiens à dire, Jen, qu'on ne peut pas te répondre par WhatsApp puisque tu nous envoies tes messages par SMS. Si vous nous envoyez des messages par SMS, on ne peut pas vous répondre. On ne peut répondre qu'à WhatsApp. Donc voilà, je lis ton message, comme ça tu es au courant que l'information est passée. Une autre personne nous a envoyé un message avec un témoignage assez lourd. C'est Logan. Coucou Logan.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Logan, comment tu vas ce soir ?
Ça va, ça va. La routine. Hein.
Bah oui, la routine. Mais écoute, Logan, on s'est rencontrés, on se connaît depuis longtemps. Je crois que tu écoutais les émissions déjà depuis plusieurs années. On s'est vus à Walibi. Tu es déjà passé à l'antenne. Et là, je lis ton message et je tombe un peu des nues parce que c'est quand même assez lourd ce qui t'est arrivé.
Ouais. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'en fait, tout s'est passé sur une période vraiment sur un an. Et en fait, bon, ben, je vais parler de plusieurs agressions, mais il y en a eu deux petites. Ces deux petites sont passées assez vite. Donc, en vrai, c'était pas un traumatisme. Par contre, la seconde que je parlerai après, là, elle a fait un impact énorme dans ma vie, en fait.
Ok.
Donc, en fait, c'est simplement une bête histoire où, tu sais, je prenais le train, j'habitais dans la ville de Tournai à l'époque. Donc, pour ceux qui peuvent un petit peu situer, juste en face de la gare, il y a un petit parc. En sortant de la gare, j'ai été accosté par deux personnes un peu bizarres, je vais dire ça comme ça, et ils m'ont simplement demandé de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent de l'argent. Bon ben moi non, je peux pas, je suis aux études. Et je continue à avancer. Ces personnes continuent de me suivre dans une rue qui s'appelle la rue Royale. C'est aussi grand que la rue du City à Bruxelles.
Ah ouais.
J'ai envie de dire qu'il y a du passage, c'est large, on voit très bien.
C'était en journée.
Et, bon, ils continuent. C'était en vers 18h,
okay.
Mais il faisait déjà noir. C'était okay. L'époque où il fait une vite noire après une certaine heure. On arrive près de décembre, un truc ainsi. Et donc ces personnes continuent à me suivre. Moi, je me sens suivi. Et je continue à avancer jusqu'au moment où en fait elles ont essayé d'arracher mon sac directement. Et elles m'ont fait courir en prenant mes affaires. Et puis comme elles étaient deux, il y en a une qui est partie à gauche, une qui est partie à droite. Puis ben moi je me retrouve comme un bête au milieu de cette rue à crier au secours. Il y avait des cafés, il y avait des gens, il y a personne qui est sorti. Il y a même des gens qui sont passés devant moi où j'ai vu vraiment des couples et tout. Hein. C'est un truc de fou parce que les gens te regardent mais il y a personne qui vient t'aider.
Aïe.
Et ça m'est arrivé deux fois. Une fois on m'a piqué mon portefeuille et avec tous mes papiers et tout. Donc voilà, pour refaire tous les trucs et tout, c'est la galère.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'était pas encore si grave que ça, mais ça laissait un petit trauma. Et une autre fois, c'était aussi dans le même genre où je sortais avec mes courses, mais là ils ont tout pris. Ils m'ont pris et les courses et mes affaires, quoi. Donc voilà. La plus traumatisante de toutes ces histoires-là, donc ça, c'est des histoires qui sont passées en rue. Donc franchement, après, on est très méfiant, surtout que j'avais 20 minutes de chez moi à la gare, donc c'était pas non plus voilà. Et celle qui m'a vraiment le plus marqué, c'est à l'époque, donc je faisais éducateur. Donc j'étais vraiment au travail de donc enfin, c'est des sessions, il y avait plusieurs sessions, donc un espèce de TFE, quoi.
Oui.
Et bon ben moi je me concentrais là-dedans, mais moi je vivais à l'époque dans un cote étudiant, sauf que dans les cotes étudiants, il y en a qui font de la fraude, dans le genre où c'était des adultes passés 20 ans, 30 ans, ça carbure de la carapille toute la journée, ça fume des trucs un peu spéciaux. Enfin, bref, c'est très spécial. Et en fait, c'était un cote étudiant où je devais départager ma salle de bain, et en fait, on a simplement une pièce, quoi.
Ok, une pièce. Donc, commune, voilà, ok.
Voilà, je remets un peu le contexte.
Ouais.
Et alors, moi, je travaille sur l'ordinateur, à faire voilà du traitement de texte, et j'entends « au secours, le gain, au secours ». Sachant des personnes qui sont sur le même palier que moi, qui sont assez spéciaux, je ne réagis pas par rapport à ça. Je me dis « ça va passer », ils sont encore en état d'ivresse, donc ils se disputent. Et là, après, au bout d'un moment, j'entends taper à ma porte, mais pas taper, plutôt frapper du poing sur la porte.
Okay.
Et quand j'ai ouvert ma porte, je suis tombé nez à nez avec une femme qui avait un bébé dans les bras, et je voyais du sang qui tombait sur mon sol. Autrement dit, le gars l'avait frappé, et il avait pété son nez.
Ah.
Donc, moi, je vois ça, je lui dis, je fais, écoute, rentre chez moi, tranquille, calmez-vous, quoi. Et donc elle rentre à peine chez moi, et là le gars il descend et il vient pour s'en prendre à sa femme chez moi.
Okay.
Il m'est vraiment violent, je me retrouve dans une dispute où j'essaie de régler le conflit, mais c'est compliqué. Et là à ce moment-là, ben, le gars il me regarde, il me dit ouais j'ai pas peur de toi, alors que franchement je suis pas violent, j'essaie juste de calmer les tensions. Mm-hmm. Il me sort un autre pinel plus grand que ma main.
Aïe, aïe.
Je le regarde, je vous jure, je suis resté bloqué, je ne savais même pas comment réagir. Je suis resté bloqué sur cette lame, et moi de là, ben, en fait, il a essayé de me la planter dans le cou, carrément, directement, il a essayé de me la planter directement dans l'artère, ou je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'il disait. Enfin, bref, et moi, dans ces moments-là, on ne sait pas quoi faire. Au lieu de sortir du bâtiment, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté à l'étage. On m'enfermait comme une petite souris. Donc, c'est des escaliers qui montent et il n'y a pas... C'est comme un grenier. Il y a juste une porte.
Ouais.
J'ai vu un colocataire qui a ouvert la porte. Je suis arrivé, je donnais un coup de pied dans sa porte et je me suis mis contre la porte. Et là, j'ai vu une scène de film, comme on voit avec le couteau qui monte et qui descend comme ça. Je voyais vraiment le couteau. Et le gars que je connais pas, un étudiant qui venait d'arriver, le malheureux, il me regarde, il voit le couteau, il se fait wow. Et là, au bout d'un moment, j'ai entendu des gens derrière la porte en mode « calme-toi et tout, c'est quoi tout ça ?» Et là, en fait, il y a donc un ami qui, à l'époque, qui est monté. Et ben moi, j'en ai profité qu'il ait un petit peu plus son attention sur lui pour essayer de passer derrière lui. Et il a réessayé de me planter dans le dos. Mais là, mon ami l'a vu et il a attrapé le couteau. Donc, il s'est fait bien couper à la main. Enfin, bref, avec tout ça. Moi, après, je suis repassé par mon cote étudiant. J'ai regardé. Bon, il y avait quand même des affaires de valeur, etc. Hein, des MacBooks et tout ça, c'est pas donné. J'ai préféré prendre la fuite. J'ai pris mes clés et je suis parti. J'ai tout laissé ouvert, tout allumé. Je fais, c'est bon, je me casse.
Oui.
Et je suis parti au commissariat le plus proche. Une chance sur toute cette histoire, c'est qu'il y avait des petites caméras Wi-Fi, là. Une Xiaomi connectée en Wi-Fi, on peut voir avec son téléphone.
Ouais.
La caméra, elle a filmé toute la scène. Et heureusement qu'il y avait ça, parce que j'avais aucun témoignage. Comment j'aurais pu prouver ce qui s'était réellement passé?
Mm-hmm.
Donc, j'ai eu toute la scène qui a été filmée. Et après toute cette histoire, bah, c'était des traumas sur traumas, des nuits de sueur, je me refaisais poignarder dans mes rêves en fait.
Mais je faisais
vraiment des souffles et tout quoi.
Mais c'est terrible.
Ah ouais, j'en avais gros sur la patate. J'ai parlé beaucoup, mais j'en avais gros sur la patate rapport à tout ça, et c'était vraiment un choc. Voilà. Et donc vous parliez tout à l'heure de sport de combat. Pour me se réaffirmer, ben là maintenant, je me suis inscrit à un sport de combat, et je pense que la prochaine personne qui va venir m'agresser, je serai pas tendre avec lui quoi. Autant je suis une bonne personne, je n'aime pas du tout la violence, mais là pour le coup, des gens comme ça, c'est mérité de leur mettre une bonne leçon quoi.
Et c'est horrible ce qui est arrivé. Enfin toi, si on prend l'histoire dès le départ, en fait toi, il y a quelqu'un qui frappe à ta porte, et donc c'est une dame avec son enfant, son bébé, tu as dit, dans les bras, et qui a le nez en sang. Donc c'est clairement donc les violences conjugales, quoi. On est en plein dedans.
Il y avait de la violence conjugale de base, et en fait, ben moi j'ai juste voulu baisser les tensions. En fait, cette femme est venue demander de l'aide parce qu'elle me connaissait, elle m'a dit, lui, je peux peut-être. Voilà. Et quand j'ai ouvert la porte et qu'on tombe nez à nez avec un bébé, enfin.
Oui, mais c'est normal. Tu as fait ce qu'il fallait. Quoi. Tu t'as laissé rentrer cette personne. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est que donc son compagnon, enfin la personne qui l'agresse, est capable de planter des couteaux, quoi. Si je comprends bien.
Exactement. Exactement.
Et alors, qu'est-ce qui, tu as des nouvelles d'eux derrière? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors. Par rapport à tout ça, ben la police après quand elle est arrivée, ils ont fait une fouille complète de son cot étudiant. On était plus étudiant depuis belle lurette, mais de son petit cot. Mmh. Ils ont retrouvé, il avait caché le couteau dans le parc du bébé.
Ah, punaise.
Il avait caché en dessous et ils l'ont retrouvé. Bon, ils ont retrouvé autre chose, ils ont retrouvé beaucoup de choses. Je vais pas en dire plus parce qu'on est quand même à la radio.
Oui, okay.
Mais ils ont retrouvé beaucoup de choses chez lui, et c'était pas une bonne personne. Quand je veux dire, son image est là. Donc voilà quoi.
Ouais. Oh là là, bah écoute, je sais pas, c'est horrible parce que je sais pas, peut-être cette personne est peut-être toujours en couple avec ce gars.
Et ça a donné quoi au niveau de la plainte?
Oui.
Alors au niveau de la plainte, j'ai pas eu plus de suivi que ça parce que en fait j'en ai parlé directement à mes parents parce qu'ils travaillent au tribunal, donc ils ont jugé quand même que c'était. J'ai juste eu un petit suivi de savoir ce que le gars avait fait. Il était à sa troisième tentative de meurtre et il était déjà connu des forces de police avec force récidive, dimi-vous, je sais pas quoi. Mm-hmm. Il y avait déjà eu de la rébellion par rapport à tout ça, et je sais que en fait il a pris 5 ans de sursis. Et il devait aller dans un centre pour, à mon avis, de la réinsertion.
En fait, tu vois, c'est ça qui est pas normal. C'est qu'en Belgique, il y a un énorme laxisme de la justice par rapport à toutes les affaires de violence sexuelle, conjugale, les tentatives de féminicide. C'est un truc dont les mouvements féministes parlent énormément. Parce qu'en Belgique, quand tu regardes le cheminement d'un dossier de viol, c'est un dossier de viol sur 100 qui aboutira à une condamnation effective de l'agresseur. En gros, ça veut dire que le viol, c'est un crime qui est quasi impuni. Mm-hmm. Tu peux porter plainte pour viol demain, tu seras presque certaine que ton agresseur se retrouvera jamais derrière les barreaux. Mm-hmm. Alors, j'ai pas une démarche hyper pro-carcérale ni rien, mais il faut quand même qu'il y ait une punition, tu vois.
Oui.
Et là, dans ce cas de féminicide, c'est hyper interpellant ce que tu dis, parce que cette personne était déjà connue des forces de l'ordre. Donc en fait, qu'est-ce qu'on attend?
Elle n'est pas décédée, hein, je pense en tout cas, là, parce que tu parles des féministes. Mais là, dans cette histoire-là,
non, mais c'est une.
Ça peut aboutir,
c'est une tentative. Donc, si la personne était déjà connue pour des faits de violence graves par horrible. Les forces de l'ordre, c'est pas normal que cette personne se retrouve dans un appartement avec une femme qui a un enfant en bas âge, mm-hmm. et que cette personne soit là avec un couteau et que voilà, elles sont encore capables d'exercer cette violence. Donc, en mm-hmm. fait, la justice en Belgique doit faire son travail, la police doit faire son travail, et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On le voit.
On a eu des discussions, on a eu le juge Gouman qui est venu mm-hmm. nous voir, on a parlé de ça. C'est très très compliqué parce que
mmh. Juge Gouman, qui avait d'ailleurs été impliqué justement dans la décision et dans les jugements avec le bar, le serveur du bar.
Oui, absolument.
Duaf, qui avait été lui disculpé. Et... Non, pas disculpé. Je sais pas quel est le mot.
Acquitté.
Voilà. Ah oui, c'est vrai. On a lu
et
ça aussi.
Il a été acquitté.
Il a pas cette preuve.
Surtout, on a aussi déterminé qu'il avait déjà eu une sanction sociale. Et ça, c'est pas normal en fait.
Quoi?
Parce que son adresse avait fuité.
Bah, je sais pas, mais en tout cas, les mouvements de libération de la parole n'ont pas fait fuiter ni son nom, ni son adresse. Donc, c'est pas normal que la substitute du procureur du roi ait jugé utile de dire que ce type avait déjà vécu une sanction sociale. Là, l'attention, elle doit se centrer sur les victimes qui ont vécu des faits d'agression sexuelle ou de viol.
Ouais.
Il y a toujours une espèce d'inversion de la responsabilité, en fait.
C'est très compliqué. Quand on voit les nombres d'années que les gens prennent aux États-Unis, c'est 120 ans, 130 ans, 160 ans, ils accumulent.
Ils sortent jamais.
Et donc ils sortent jamais. Et que quand tu vois qu'il y a des viols, et parfois c'est 2 ans, 3 ans, des fois 15, ça dépend, c'est très aléatoire en fonction des contextes et tout, parce qu'il faut toujours regarder le contexte, c'est important. On juge les gens en fonction d'une histoire et d'un contexte. Mais c'est jamais assez.
Ouais. Il n'y a jamais assez de preuves.
Ah ben non.
C'est très faible, ouais. Et t'as beau avoir les caméras de surveillance, les témoignages. Honnêtement, parfois, c'est quand même un peu affolant de se dire, voilà, il y a peut-être 10 ou 15 femmes qui ont témoigné contre la même personne et ça n'aboutit pas parce qu'il
n'y a pas de preuves
en tant que telles.
Il y a des preuves, mais c'est juste qu'on les considère pas comme des preuves. En Belgique, c'est ça le grand problème. Enfin, en France aussi. C'est juste que, ton témoignage, le témoignage de tes voisins, ça va pas être considéré comme une preuve vraiment tangible. Il faut un kit du viol, donc c'est une espèce de preuve matérielle qui fait que, on voit que la personne,
c'est un élément médical, quoi.
C'est ça. Et en plus, il faut prouver, au-delà de ça, que le rapport n'était pas consenti.
Oui.
Et c'est ça, la galère.
Et ça, c'est de nouveau ta parole contre la sienne.
Mm-hmm. Ah, c'est sûr. Mm-hmm.
Très compliqué. Bon, là, en l'occurrence, dans la situation de Logan, les caméras ont fait leur travail, quoi.
Mm-hmm. Elles ont fait le travail correctement. Et même par rapport à ça, du coup, la police, je sais que... La police, quand ils ont vu la caméra et tout ça, ils m'ont demandé de leur envoyer et tout. J'ai quand même appris par après qu'une bande vidéo, c'est pas considéré comme une preuve non plus, apparemment. Parce que maintenant, avec les outils d'intelligence artificielle, etc., ils peuvent penser que c'est un montage ou quoi. Bon, après, maintenant, je suis peut-être mal renseigné sur ce sujet, mais... C'est d'après ce que j'avais vu sur Internet, etc. Et même d'après la police, ils m'avaient demandé d'envoyer l'email et tout.
T'as entendu parler de ça ?
Après, lui, il était déjà connu aussi. Hein.
Moi, j'ai déjà entendu parler de personnes qui réfutaient la véracité de caméras de surveillance en disant que c'était un montage et que voilà. Mm-hmm. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment catastrophique.
C'est horrible.
Mais qu'est-ce qu'on fait pour prouver, du coup
Je sais pas.
Aucune idée.
Donc toi,
en tout cas, je sais que le gars, il était déjà connu, il avait déjà fait de la prison avant, en fait. Le bébé, parce que ça, c'est quand même un truc incroyable, le bébé qui était dans les bras de cette femme, c'est un bébé qu'il a reconnu au nom du père, mais c'est pas lui le père, parce qu'il était en prison pendant que sa gonzesse s'est fait retourner par un autre.
Je suis cru
de le dire, mais c'est comme ça que les choses sont bonnes.
Donc c'est une victime, en plus, dans l'histoire, voilà. Mais ok, mais...
Non, clairement.
D'accord.
Il a pris 2 ans. Je sais qu'il a pris 2 ans.
Pour ce qu'il a fait là, avec toi?
Pour ce qu'il a fait avec moi, il a pris réellement 2 ans de prison.
Ferme,
c'est ça. Et après, je sais qu'il y avait encore bracelet et réinsertion et tout ce qui suit. Mais en tout cas, en prison, fermé dans la cage, il est resté que 2 ans, pas plus.
Mais le problème de la prison, c'est la récidive. Si on met pas en place des vrais programmes de réinsertion, mais vraiment des programmes qui font que les gens ne sont pas amenés à récidiver.
Un suivi psychologique.
Un vrai suivi psychologique approfondi, une remise en question sur ce qui s'est passé. Parfois, il y a des processus qui s'appellent genre des processus de justice. Comment ça s'appelle ?
Restauratrice,
merci.
Ouais. J'ai vu un super film
incroyable.
Sur ça avec
Adèle.
Je verrai toujours vos visages.
Ouais. Mm-hmm. Incroyable.
Ouais, c'est hyper intéressant de mettre justement ce métier un peu en avant et cette.
Mais voilà, il faut que des programmes comme ça soient mis en place pour que les gens puissent vraiment se questionner sur ce qu'ils ont fait. Mais tant qu'on ne fait pas ça, les gens sortiront, n'auront aucune perspective d'avenir ni de remise en question et recommenceront.
Mais du coup, c'est les moyens. C'est la justice restaurative.
Oui, c'est ça.
Pas restauratrice, mais justice restaurative. Mais c'est l'argent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est de nouveau créer des structures, trouver l'argent.
Mais c'est une priorité.
Oui. On est d'accord. Ouais. C'est juste, c'est politique.
Oui, tout est politique. Bien sûr. Dit souvent dans les mouvements féministes que l'intime est politique. Bah, c'est vrai, hein. Tout est une question de moyens, tout est une question de volonté politique. Donc,
toi, tu as monté ton association, Maïté.
Oui. Elle s'appelle Artemise.
Ah, comme la déesse.
Comme la déesse et aussi comme une peintre italienne qui s'appelait Artemisia Gentileschi.
C'est beau, ça ?
Ouais, c'est beau. Mais du coup, cette peintre, c'est une femme qui, pendant la Renaissance, a été violée par l'ami de son papa qui était son maître peintre, je sais pas comment on doit dire
ça. Oui, on voit.
Et donc voilà, et elle était vraiment dévastée, évidemment, et elle a peint ce qu'elle a vécu. Mmh. Et ça a été une des artistes les plus reconnues de son époque, et enfin une des artistes féminines les plus reconnues de son époque. Et donc pour moi, c'est vraiment un symbole de résilience et de reconstruction. Donc je crois que c'était un beau symbole pour l'initiative.
Et qu'est-ce que tu fais alors à travers ton association ?
Mais en gros, on accompagne les survivants et les survivantes de violences sexuelles, les adultes et les enfants. Donc c'est assez dur, mais on les accompagne sur le plan thérapeutique et ce sont des psychologues qui sont formés à la thématique, qui s'occupent de ça. Donc on organise des groupes de parole, on organise des suivis individuels, on met en place des programmes d'accompagnement et alors on organisera bientôt aussi de l'art-thérapie.
Mais c'est chouette, c'est super. Attends, c'est ton association, c'est toi qui as monté ouais. cette association ?
C'est moi.
Suite à tout le mouvement Balance ton bar, etc., ou c'était déjà là avant ?
Non, suite à tout le mouvement, parce que je recevais des témoignages qui me disaient j'aimerais en parler, j'aimerais continuer à en parler. Et donc moi, je pense que j'étais pas la personne appropriée, et puis je pouvais pas être le réceptacle de tous ces témoignages et de tout ce vécu, simplement pour moi déjà, et pour les personnes qui se confient, parce qu'elles méritent d'être bien accompagnées par des gens qui sont formés.
Oui.
Et donc j'ai décidé de monter cette structure en me disant « Ok, bah, y a un besoin ». Et ces personnes ne trouvaient pas de psychologues adaptés. Enfin, il y avait des psychologues qui étaient formés à la thématique des violences, mais ça coûtait super cher. Et quand je réguillais les personnes qui étaient plus dans la précarité vers des centres de santé mentale et tout ça, il y avait une file d'attente de dingue. Les gens n'étaient pas spécialement formés à la thématique des violences. Et donc, je me suis dit, OK, pour moi, une victime ne devrait jamais payer pour se reconstruire. Donc, on va créer un endroit avec des psychologues formés où les gens et pas un copec pour se reconstruire, et c'est le cas, donc ouais, ça,
c'est
voilà.
Incroyable. Bravo.
Merci.
C'est incroyable.
Merci.
Tu as 26 ans, je précise, hein. Tu es toute
voilà.
jeune. C'est génial.
Merci.
Quoi, de tu te rends pas compte, c'est une pierre après l'autre, et quoi, et donc c'est un centre, il y a vraiment un centre, et c'est quoi, en Belgique, à Bruxelles, je veux dire.
Oui, c'est à Bruxelles, c'est près d'Isère, sur le square Sainte-Thelette. Tu vois un square qui est souvent embouteillé là.
Oui, je vois très bien.
Sur le canal, oui, voilà. Donc c'est sur le square Sainte-Thelette, on va peut-être changer d'endroit, mais en tout cas, ça restera toujours sur Bruxelles-Centre. Et oui, les personnes peuvent prendre rendez-vous, c'est sur le site. Et j'en fais souvent la promotion via Balance ton bar, parce qu'on me le demande souvent.
C'est exceptionnel. Je regarde Artemisia. Hein.
Artemisia. Ça s'appelle, si tu veux le site internet, ça s'appelle Projet. Il y a un petit tiret, ouais. artemise.org.
Je l'ai fait à l'américaine. Je tape. Je sais pas, Artemise, tu l'écris comment ?
A-R-T-E-M-I-S-E.
Ah oui. Ah, Artemise.
Ouais, tu sais, on me le dit souvent, donc je me remets en question par rapport au nom que j'ai choisi.
Non, mais c'est, voilà, je viens de trouver. Alors oui, je vois en plus des photos d'enfants, parce que tu viens de parler du fait que... Donc, c'est vrai que Balance ton bar, du coup, c'est a priori des personnes... juste majeur ou adulte, mais tu as ouvert aussi le champ d'action aux violences sexuelles faites aux enfants.
Oui, parce qu'il n'y avait pas d'association qui se spécialisait là-dedans à Bruxelles.
C'est pas vrai.
Ça paraît ouf quand même.
Oui,
c'est pas possible.
Mais quand tu vois en plus la demande qu'il y a, tu te dis c'est quand même assez...
Et ça, c'est le prochain sujet. Attention, hein, parce que là, on parle des adultes, etc., les bars, les viols, les agressions. On parle de plus en plus maintenant des violences, de l'inceste, etc. Mais ça arrive comme ça, etc. Mais à un moment donné, il faut vraiment prendre ça à bras-le-corps, parce que les pourcentages...
Mais tu sais que j'ai vu, c'est un enfant sur cinq, je crois.
C'est énorme.
Ou sur trois dans
une classe.
Quand
tu vas dans les écoles...
En Belgique, on n'a pas la statistique. Pardon, je t'ai coupé.
Non, il n'y a pas de souci, c'est une discussion.
En Belgique, on n'a pas la statistique, mais en France, ils ont fait une statistique, c'est une étude Ipsos, et en gros, c'est un Français sur 10. Mm-hmm. Qui a été victime d'inceste.
Et regarde même avec c'est ce qui
énorme.
S'est passé, tu sais, à Notre-Dame, l'école là-bas.
Oui, Joël Le Square. Ah non, c'est encore autre chose. François Béraud, là. Ouais, ouais,
je ne reviens pas sur le nom de ce collège, lycée.
En France.
En France, où il y a plein d'enfants sur 50 ans qui ont été abusés par des professeurs.
Mais tu vois, ça a été couvert. Ça a été couvert pendant très longtemps. Et. Les personnes qui gardent le silence, qui sont des adultes, qui sont en capacité d'agir, sont des gens qui, pour moi, sont complices. Et à un moment, il faut dire les choses.
Mais on en parle de plus en plus, ce qui est bien. Moi, je me rappelle, dans mon école, il y avait eu des histoires comme ça, mais c'était très tabou, en fait.
Bien sûr, mais ça reste un tabou énorme.
Quand un professeur était accusé de ça, je sais pas, il était mis de côté, c'était vraiment, il y avait une omerta, quoi. Aujourd'hui, bon, alors, il faut trouver la balance, parce que ça peut aussi se retourner, tu vois, parce qu'il peut y avoir des accusations, il faut faire très attention, c'est délicat, c'est très délicat, parce que tu peux avoir des parents en colère pour une raison ou pour une autre qui sortent un truc. Je connais aussi des gens proches de moi qui ont été victimes de ça dans le cadre scolaire, où des parents ont inventé des choses, etc., par vengeance, ou etc. C'est très compliqué. Bon, ça reste des pourcentages minimes par rapport aux vraies histoires, évidemment. Mais à l'époque, ça ne fuitait pas du tout. Alors que maintenant, au moins, la parole peut se libérer. On apprend de plus en plus aux enfants. Moi, je vois plein de vidéos aussi sur les réseaux où on commence à apprendre aux enfants à dire là on touche, là on touche pas, etc. Mais jamais on a parlé de ça avant. Enfin, je veux dire, c'était pas
non, la notion de consentement
et du
jamais.
Corps, de l'intime, de tu vois.
Ouais. Mais même maintenant, je vois aussi beaucoup de parents, de maîtresses, etc. qui justement demandent souvent l'autorisation avant de d'embrasser, même sur la joue, etc.
Maintenant, oui, même dans la rue, quand tu veux dire bonjour à tu sais, tu vois un beau bébé ou quoi, c'est vrai que naturellement, avant, dans les mœurs, c'était pas du tout induit que tu pouvais toucher le bébé, toucher ses cheveux, tous ces trucs. Aujourd'hui, tu sens que tu peux un peu plus poser la question, quoi.
C'est important d'apprendre à un enfant ses propres limites corporelles et puis à respecter celles des autres. Tu vois, en Belgique, on a ce qu'on appelle l'EVRAS. Donc, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et
sociale. Ça a fait beaucoup de problèmes.
Mais je pense que ça devrait pas, en tout cas, c'est mon opinion. Mais c'est dispensé deux fois sur le cours d'une scolarité, donc c'est vraiment pas énorme.
Non.
Au Danemark, ils mettent en place un système dingue. En gros, c'est l'éducation à l'empathie. Donc, ils donnent ça dans les classes de maternelle. Et en gros, t'apprends à l'enfant à comprendre quand ils mettent l'autre mal à l'aise, tu vois. Juste par empathie, en fait. Est-ce que ton copain, là, il a envie que tu lui touches l'épaule, tu vois. C'est vraiment des bêtes petites questions. Mais en fait, pour un enfant, on peut vite déceler des comportements problématiques comme ça. Et justement, réguler l'enfant vers quelque chose de plus sain. Et
puis on soulever des questions, parce que si un enfant est agressif, ou ça bien soulève sûr. Des questions sur son éducation et sur ce qui se passe chez lui, parce que
ouais, bien sûr, parce qu'un enfant de 5 ans n'est pas coupable, c'est juste que voilà, on doit recadrer le tir, et c'est important, et c'est mieux de le recadrer à 5 ans qu'à 27.
Et toi, dans ton association, alors tu suis ça de à quel niveau, parce que j'imagine pour toi, t'es confronté déjà à des témoignages de personnes qui ont été victimes d'agressions, etc. C'est déjà waouh. Mais les enfants, je sais même pas comment est-ce que, enfin.
Ouais, bah ça m'a.
T'as une super bonne mine, quoi, je veux dire.
Merci, c'est gentil. Je dois partir en vacances là, non, franchement. Mais non, mais c'est pas moi qui suis directement ces enfants. Donc c'est des professionnels qui sont formés. C'est hyper important parce que l'approche avec l'enfant, elle est encore plus spécifique. Tu vois, t'as une thérapie qui peut être faite par le jeu, par le dessin, par un tas de trucs. Donc oui, c'est la thérapeute qui suit ça. Et moi, j'essaie de superviser, viser à l'expansion de la structure, à ce que voilà, tout soit bien, que les personnes soient bien réaiguillées. Voilà, j'essaie de superviser cette structure, en fait.
C'est exceptionnel. C'est un très très beau travail que
Merci.
Tu fais. Logan, tu es encore avec nous ?
Oui,
oui, il est encore là, Logan. La discussion, voilà, elle va là où elle va. Logan, écoute, merci de nous avoir raconté cette histoire. J'espère que tes cauchemars ne sont plus là, que c'est une histoire qui est derrière toi.
C'est bien passé derrière. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai vécu longtemps avec une boule à la gorge, comme si on t'étranglait en permanence, comme ça, un état de stress.
Ouais.
Là, avec ce trauma, j'avais été encore revoir le médecin, il m'a dit c'est tout des taches de stress, j'ai un teint métis comme ça, j'ai ma peau qui a changé, en fait j'ai eu un trauma de stress et donc du coup il y a toutes des pigmentations de la peau, donc pour dire comme quoi ça a été loin. Et au niveau des psychologues, j'avais pensé en voir quelques-uns, j'ai jamais trouvé le bon. Donc au final, je me suis dit que le meilleur travail que je pouvais faire, c'était sur moi-même, en faisant de la méditation et des trucs assez relax, etc. Et de toute façon, passer au-dessus, parce que voilà, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Il a essayé, il l'a pas eu. Ben voilà, la prochaine fois, ce sera un autre, mais qui range bien son couteau, ou alors il retournera avec quelque part, mais pas là où il faut, quoi.
Mais j'espère quand même que tu trouveras une personne pour t'accompagner, parce que c'est pas rien ce que t'as vécu. C'est et puis on le voit, tu dis que t'as.
Passé.
Ouais, l'hypnose, ça
c'est
peut aider aussi. On avait justement l'hypnose lundi.
Écoute,
j'ai essayé, ça n'a pas marché. En plus, j'ai déjà fait de l'hypnose ericksonienne, j'ai essayé l'hypnose thérapeutique, ça n'a rien fait du tout.
En fait, chacun doit essayer de trouver.
Et tu dois sentir aussi, et puis
pas se forcer.
Voilà, et puis peut-être que, tu sais, c'est-à-dire, je veux pas dire oui, ça va revenir. C'est, à certains moments de la vie, il y a des choses qui peuvent ressortir, etc. Voilà, et que tu sois vigilant. Et puis comme voilà ici Maïté Méus qui est notre invitée, toi, elle a voilà elle a son association qui vient en aide aux personnes victimes de violences sexuelles adultes et enfants. Il y a plein d'associations, il y a plein de groupes de parole. N'hésitez pas à aller chercher ça. Et puis si vous ne trouvez pas, bah vous y demandez à d'autres associations qui peuvent vous diriger vers des personnes qui connaissent. Donc Logan, voilà, prends soin de toi, j'ai envie de dire.
Sois à l'écoute. Je suis à l'écoute surtout de moi-même et je me dis que ben voilà ce qui fait beaucoup c'est que maintenant je fais un sport de combat que je prends en assurance.
Ah oui.
Et j'ai repris une confiance en moi parce que avant j'étais plutôt pas du tout confiant, j'osais même plus sortir en fait pour aller à l'école et tout, ça n'allait pas du tout, j'arrivais plus à suivre les cours correctement parce que ben il y avait tout ça qui me tournait autour, puis on dort pas et même en rue dès qu'on entend un bruit on se retourne avec ce qui s'était déjà passé avant. Enfin voilà, le truc c'est de prendre de l'assurance et de savoir entre guillemets se défendre en fait. Je pense que vraiment pour les gens qui ont vécu ce genre de choses, c'est surtout d'apprendre à se défendre, pas forcément faire mal aux gens parce que voilà c'est pas le but, mais en tout cas de savoir réagir si maintenant on arrive avec un couteau derrière vous ou alors que vous êtes devant quelqu'un qui propose une batte de baseball ou un petit couteau, savoir ce qu'il faut faire. Fuir c'est pas toujours la meilleure des solutions. Parce que au final, au bout d'un moment, peut-être l'agresseur il court plus vite que vous, il va mettre une balayette et il vous termine. Mais voilà, le truc c'est qu'il faut essayer quand même de savoir se défendre. Je vois que ça. Moi je.
Et puis aussi peut-être c'est une manière aussi de reprendre possession de ton corps, d'être en plus en contrôle et je présume, tu vois, le fait de pratiquer le self-défense ou un sport de combat, ça te permet de reprendre le contrôle de la situation.
Je prenais avec, on m'avait dit de la laque, parce que tout ce qui est bombe lacrymogène et tout ça, ce sont des armes qui sont pas vraiment autorisées. Ouais. Donc moi à l'époque, mon ex qui était très 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 fine, très petite, etc., qui avait encore plus peur avec ce qui venait de se passer, elle promenait tout le temps avec une laque pour les cheveux là, et apparemment ça dans les yeux ça pique bien.
Bon à savoir, très bon conseil aussi. La petite laque. Logan, écoute, tu es toujours le bienvenu dans l'émission quand tu le souhaites. Merci pour tes messages et merci pour ton témoignage ce soir.
Il n'y a pas de souci. Merci à vous aussi, l'équipe.
Et que tout se passe bien pour toi. Et puis, on se parle, on se voit très vite.
Ça va.
Bisous, Logan.
Ça va. Bisous, bisous. Passez une bonne soirée.
Merci, toi aussi. Ciao, ciao.
Merci.
Waouh. Oui, écoute, la violence, qu'est-ce que tu veux? La violence. Elle est partout. Maintenant, on s'est posé la question tout à l'heure, à quel niveau est-ce que, tu vois, il y a les trucs on résout, les problèmes qui sont déjà là, mais pour les nouvelles générations, peut-être il faut éduquer les enfants différemment.
Mais comment? C'est sûr, il faut de l'éducation au consentement, c'est ce qu'on disait, il faut de l'éducation à l'empathie, il faut avoir une attention justement maintenant sur les tout-petits. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais qui a des enfants ici?
Audrey a des enfants, deux enfants formidables.
Tu leur parles un peu de ça?
Oui, moi mes enfants ils sont très très conscients de tout ça, du consentement, de leur corps, de
c'est génial.
Ces choses-là.
Est-ce que c'est quelque chose que toi tu leur as inculqué ou est-ce qu'ils ont ça à l'école et tout?
Il y a beaucoup d'éducation à la maison qui s'est faite et depuis cette année seulement, je crois que c'est cette année, pour mon fils il a 12 ans, ils ont des cours justement, je vais pas dire c'est des cours d'éducation sexuelle parce que c'est en fonction des âges que les cours sont différents, etc. Mais par exemple, quelque chose d'intéressant que le professeur m'avait communiqué, c'était justement pour apprendre aussi le langage corporel. Mm-hmm. Que parfois, on va pouvoir te dire oui, mais en fait, le corps dit non.
Ah.
Et pouvoir le déceler et alors faire des exercices qui sont assez simples, mais pour que l'enfant réalise. Ah ok, en fait là j'apprends à lire le corps de l'autre.
C'est génial.
Oui, donc en fait,
dans les yeux ou quoi par exemple.
Dans les yeux, dans la posture, dans tout ça. Et en fait ils les avaient alignés, genre ils avaient fait une ligne l'un en face de l'autre. Mm-hmm. Et alors il fallait qu'il y en ait un qui demande est-ce que je peux avancer vers toi, et alors il faisait un pas. Est-ce que je peux encore avancer vers toi, il faisait un pas. Donc ça c'était dans le verbal jusqu'à ce que la personne dise là maintenant stop, t'es trop près.
Ouais.
Et donc on reculait. Et puis il y a eu le non-verbal. Donc c'est sans de poser la question est-ce que je peux avancer vers toi. Et donc il fallait regarder et apprendre
et
à lire le corps, les yeux, le visage, etc. de la personne, les mains, la posture. pour voir si oui ou non, en fait, l'enfant en face voulait bien que tu avances et jusque où.
C'est hyper intéressant.
Voilà, c'est comme ça qu'on règle le problème comme, pour les prochaines générations.
C'est génial.
Et en fait, je trouve que l'exercice, il est simple et finalement, en fait, il est très parlant. Donc, c'est parce qu'en fait, tu es juste là et tu dois essayer d'apprendre, de regarder, ben.
Ouais.
Je peux y aller ou ça dit quoi?
Et ça rend plus intelligent en plus parce que ça développe des sensibilités autres que celles que tu vois. Des fois, t'es dans ton mood quoi. Enfin.
Mais après, je rejoins parce que moi, au début, quand on m'a dit ouais, ils vont avoir des cours d'éducation sexuelle ou etc. Même en bas âge, je trouvais ça, même pour ma fille, je trouvais ça tôt et j'avais pas la notion de ok, comment est-ce que ça va être abordé. Et en fait, finalement, quand on voit la manière dont c'est abordé, par exemple là pour mon fils qui a 12 ans et que c'est abordé de cette manière là, je me dis en fait.
S'adapter, ouais.
En fait. On est good. Après, c'est dans l'école dans laquelle eux ils sont, et je sais pas comment ça se passe dans les autres écoles, mais si c'est ça, let's go.
Il y a eu plein de fausses informations qui ont circulé aussi sur l'Evras. On a fait croire que dedans il y avait plein de choses qui étaient totalement pas du tout ce qu'il y avait dedans. Il y a eu un faux Evras.
Mais le problème,
il y a eu un faux Evras qui a circulé sur les réseaux.
Le problème en tant que parent, Lara, c'est que je trouve que les parents n'ont pas été assez informés sur qu'est-ce qui allait être appris, comment et quoi, à quel âge, etc. Donc c'est vrai qu'on est venu avec ce programme en disant voilà, on va apprendre ça depuis, je crois que c'est à partir de 5 ans, quelque chose comme ça, 5 ou 6 ans.
Oui, donc t'as peur quoi.
Quelque part, t'as envie que les enfants gardent aussi leur innocence et
exactement.
Qu'ils soient pas tout de suite confrontés à ce monde.
Exactement, et on sait pas en fait qu'est-ce qui va être dit, et donc t'as pas de contrôle sur cette éducation qui est donnée à l'enfant, et encore même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Moi, c'est parce que j'ai été parler au professeur qui donne cours de ça en mode, ok, mais c'est quoi votre cours? Qu'est-ce que vous faites? Et à partir de quel âge et comment, etc., que j'ai posé mes questions. Sinon, en fait, tu n'as pas d'information.
Ouais, t'es tout seul et tu peux te faire
et je comprends
films.
Que pour que les parents, en fait, ce soit effrayant.
Mais surtout qu'il y a certains parents qui aimeraient peut-être garder aussi cette tâche-là de eux pouvoir partager ça avec leurs enfants et d'expliquer un petit
peu. Je crois qu'il y a beaucoup de parents comme ça.
C'est, ben,
je sais pas, tu sais.
Je pense pas non plus, mais après, encore une fois, tu vois, tu dis, ouais, gardez ça pour eux et que eux fassent leur éducation. Moi, l'exercice que le professeur, il a fait, je n'y aurais jamais pensé pour voir le consentement non verbal, par exemple.
Oui, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment bien d'avoir des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand tu penses qu'en fait, à 5 ans, à 6 ans, on va montrer à tes enfants ce que c'est un préservatif, à quoi ça sert,
etc. Mais ça, ils font pas, par exemple.
Oui, mais tu vois, c'est un peu les idées reçues que tu as.
Oui, oui, tout à fait.
Je pense que moi, en tant que parent, je me dirais, je préférerais, si mon enfant doit apprendre ça à 6 ans, je préférerais que ça vienne de moi plutôt que.
Tu crois qu'on apprend ça à un enfant de 6 ans? Non, c'est totalement inapproprié.
Non, bien sûr. Mais même Ohio, mon fils qui a 12 ans, là maintenant, c'est toujours pas le programme qu'ils ont. Donc ça arrive que vers 16 ans, effectivement, le préservatif, comment l'appliquer, être sûr que ce soit bien, les moyens de contraception, les MST, les relations sexuelles, etc. Là, on est vraiment aux prémices de, du corps et du consentement.
Oui, c'est quoi? Mais l'Evras en particulier, enfin, il est basé sur des choses qui sont dites dans les écoles depuis hyper longtemps, même dans les écoles catholiques. Et ça, moi, j'ai fait tous mes études primaires, secondaires, primaires chez les jésuites et puis secondaires dans un ancien monastère. On a eu des cours comme ça. Je vous assure, je pense que les adolescents de toutes les époques, quand t'as un cours comme ça, mais c'est horrible en fait. C'est pas un truc que t'écoutes en mode ouais, t'as deux bonnes femmes qui viennent, t'es méga gêné, tu vois, t'écoutes d'une oreille, t'es super mal, enfin tu vois. Donc c'est toujours la même chose en vrai. C'est juste qu'il y a eu peut-être une emphase sur ce document là qui est comme
mais
tu dis.
Mais je pense c'est l'âge à laquelle ils ont commencé à vouloir en parler parce qu'à l'époque, moi je me rappelle, on a eu des cours comme ça, mais on était beaucoup plus âgés. Enfin, j'ai l'impression que j'avais 14
ans. 12 ans, en secondaire.
Voilà, en secondaire.
Et donc voilà l'histoire, c'est qu'en fait ils amènent ça en primaire.
En primaire.
Mais ça, tu vois, c'est quoi ça? L'éducation.
C'est vrai que les parents devraient être informés, mais c'est pour
mais
ça qu'on
n'est pas informés.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que ça s'appelle éducation à la vie relationnelle. Affective et puis sexuelle, c'est beaucoup plus tard quoi. Enfin d'abord on se concentre sur la relation,
l'affectif,
ouais, c'est ça,
les parents, la famille, les amis, le truc, les frères,
c'est calme hein.
Mais on le sait pas,
ouais, c'est ça qui est dommage.
Et vraiment puis avec les réseaux ça s'emballe et puis il y a des faux documents qui ont circulé, etc. Mais bon, tout ça pour dire que la lutte continue quelque part. Soyons vigilants, vous voyez une personne qui est en difficulté, essayez par tous les moyens de l'aider. Si vous voyez une jeune femme en sortie de boîte de bar ou de quoi, qui est toute seule, isolée, qui a peut-être un peu bu ou quoi, essayez d'appeler des personnes pour éviter que cette personne soit toute seule ou qu'elle se fasse. On est tous, on peut tous faire une petite part et changer la vie des gens autour de nous. Et puis voilà, protégeons nos enfants, ça c'est obligatoire. Maïté, merci d'avoir été avec nous.
Merci pour l'invitation.
Tu es la bienvenue quand tu le souhaites. Merci. Bravo pour tout ce que tu fais et ton association Artemise.
C'est ça.
Que vous pouvez trouver projet-artemise.org. pour les victimes de violences sexuelles, adultes et enfants malheureusement. Mais voilà, tu fais un travail formidable et tu mérites ton prix Nobel de la citoyenneté.
Merci. C'est nous qui te le remettons. C'est
franchement, je serais honorée d'avoir un prix Fun Radio, un prix Nobel.
Eh ben, on te l'offre. Tiens, écoute, il est virtuel, il est là. Il est pour toi. Merci beaucoup. Reçoit. Jeanne, merci beaucoup pour cette chouette soirée qu'on a passée ensemble.
Merci à toi, Lara. Et merci à Audrey.
Merci à Audrey.
Merci à vous, les filles.
Et son make-up, voilà, je suis toujours
en admiration. Je le dis ça quand je suis en
très, très joli make-up.
Merci, merci.
Irène, merci aussi pour les belles images que tu nous concoctes sur la Fun Vision. Chers amis à l'écoute, bonne soirée à vous. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Demain, eh ben, c'est jeudi. Oui.
Demain, c'est quoi le programme?
Alors, demain, écoute.
Demain, ça va être la foire.
Demain, ça va être la foire. Parce que. Jeanne.
C'est demain ?
Quoi ? C'est demain quoi ? Tu sais ce que c'est ?
Oui, je sais ce que c'est.
Tu sais c'est quoi ?
C'est demain que tu ramènes tout ton crew ?
Ouais, c'est demain qu'elle ramène
son crew. C'est qui ton crew ?
Attends. Donc, Jeanne, en fait, son copain, il a un groupe de musique qui s'appelle Breakdance.
Mais quoi ? Mais je suis jalouse !
Et c'est des tarés mentaux. Donc demain, on va faire connaissance avec Breakdance. Mais viens si tu veux.
Ils voulaient venir déguisés et tout. Hein. Je leur ai dit, les gars, calmez-vous.
Mais faites, mais qu'ils viennent comme ils sont. Qu'ils viennent comme ils sont. Parce que j'ai vu quelques vidéos. Venez, ils s'amusent très bien dans la cabane là.
Ah non, mais franchement,
c'est un peu enfumé, mais. Oui. Mais c'est ça qui est chouette. On va se retrouver donc demain à 20h. On vous offrira encore deux places, un duo ticket. C'est le dernier de la semaine, en tout cas en ce qui nous concerne, pour l'Adult Night au Lego Discovery Center. Ça se passe toujours par SMS.
Continuez de vous inscrire.
Absolument.
Hein, jusqu'à demain.
6322 par SMS, vous envoyez le mot Lego. Si vous êtes fan de Lego, bah c'est la soirée. It's the place to be. Bonne chance à vous, Maïté, bon retour. Voilà, très bonne soirée. Profitez encore jusqu'à minuit. C'est Lucas qui vous accompagne dans l'after. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Une très bonne soirée. Et puis, à demain !
À demain !
On a les droits. Bonne soirée, les filles. Et bonne soirée à vous.
Bonne nuit.
Lara Belle Rose and Friends.